Bonjour, Renaud Dourge en votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être par téléphone, je le précise, en compagnie de Petronille Rostagna pour son nouveau roman « La mort en miroir ». C'est paru aux éditions Belladone. Petronille Rostagna, bonjour.
Bonjour Renaud.
Bien, écoutez, je suis très heureux de vous entendre. Comme chaque fois, nous avons fait déjà quelques émissions par le passé, et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Je vais rappeler brièvement à nos auditeurs que vous êtes bien sûr un auteur confirmé, mais auparavant, vous avez travaillé dans le... Vous avez un diplôme de commerce en marketing, c'est bien cela?
Oui, exactement. C'est vrai que j'étais pas du tout destinée à être écrivain à la base. Et en effet, j'ai fait une école de commerce pendant 5 ans où j'étais spécialisée en marketing. Et puis j'ai été amenée aussi à travailler 10 ans justement dans ce domaine avant de décider de prendre la plume.
Et vous avez déjà eu plusieurs prix. Vous avez eu le prix Polar du meilleur roman francophone pour J'aurais aimé te tuer, c'était en 2022. Le grand prix Iris Noir à Bruxelles pour Quand tu ouvriras les yeux. Finaliste du prix des maisons de la presse pour Sur leurs traces, 11 romans. Et j'ai vu hier sur les réseaux sociaux que vous venez d'avoir un autre prix, mais je crois qu'il n'y a aucun rapport avec le roman, me semble-t-il.
Oui, en fait, là, c'est le prix justement de mon ancienne école de commerce, l'ESCA, que j'ai fait à Angers, qui en fait récompense en fait les carrières un petit peu atypiques à la sortie d'école. Et donc voilà, donc c'est un immense honneur d'avoir cette reconnaissance par mes anciens pairs, on va dire.
Et en dehors de vous, parmi les personnes ayant eu ce prix, est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été comme vous dans le milieu littéraire?
Alors, pas spécialement. Je sais qu'il y a eu des humoristes, voilà, des gens qui ont créé des entreprises un petit peu particulières par rapport à l'école de commerce. Et c'est vrai que c'est super parce que c'est une école qui a énormément d'années. Et qui met quand même en valeur justement des élèves qui ont des parcours très particuliers, qui sortent un peu des chantiers battus. Et je trouve ça super justement d'avoir cette reconnaissance, alors qu'on a décidé de prendre des voies un petit peu de travers. Mais voilà, moi je trouve ça super d'avoir cette reconnaissance auprès de mon école de commerce. Ça me rappelle plein de souvenirs.
Alors, je précise également que vous êtes membre d'une meute de louves, pour être précis.
Oui, du collectif qu'on appelle les Louves du Polar, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et on a à peu près une quarantaine d'auteurs femmes françaises dans ce collectif pour mettre en avant justement le polar au féminin.
Et le polar au féminin qui est de plus en plus important en France, il faut le signaler. Il y a des auteurs...
Oui, c'est vrai qu'on est très nombreuses, oui.
Je ne vais pas les citer toutes parce que j'en oublierai. En particulier chez Hugo, il y a pas mal d'auteurs... Vous avez été chez Hugo à une époque d'ailleurs. Pour vos ouvrages.
Alors moi, non,
vous n'avez pas été chez Hugo.
Non, j'avoue que c'était une maison qui en effet m'intéressait. Hein. Donc j'aime beaucoup l'ancien éditeur chez Hugo à l'époque, qui était Bertrand Pirel. J'ai beaucoup d'affinités en effet avec cette maison d'édition que je trouve super. Il y a beaucoup en effet de femmes et d'auteurs dans cette maison que j'apprécie énormément. Donc c'est une très très belle maison d'édition. En effet, j'aurais aimé faire mon parcours chez eux un moment, mais la vie en a fait autrement. Mais voilà, c'était d'autres rencontres, d'autres envies qui ont semé mon parcours.
Et maintenant, vous êtes chez un tout nouvel éditeur, Belladone, que nous ne connaissons pratiquement pas, quoique j'ai déjà noté quelques titres d'ouvrages parus en dehors du vôtre. C'est une jeune maison où il y a également des femmes auteurs.
Oui, en fait, Belladone, c'est un petit peu la petite sœur de Charleston, qui est un peu plus connue pour sa romance, et en fait, qui a décidé...
C'est l'édition Le Duc, en quelque sorte.
Exactement, c'est le groupe Le Duc qui a voulu chanter dans le polar. Et donc, elle a voulu créer cette nouvelle petite maison d'édition qui va devenir très grande, j'imagine, qui s'appelle Belladone. Et en effet, qui met dans un premier temps en avant le polar vraiment au 100% féminin. Donc, pour l'instant, elle ne publie que des auteurs femmes. Donc, c'est une décision éditoriale, mais qui changera peut-être par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cœur un peu de cette maison d'édition qui vient de naître.
Alors, j'ai noté entre autres qu'il y a Nathalie Marquet-Pernot pour « Méfiez-vous des morts ». Il y a Sarah Pinboroughs pour Les Ombres de l'Arkin Lodge et un livre, moi, je vais le demander car il m'intéresse particulièrement, La Bouchère, qui est un roman coréen. Parce que quand on sait que le film policier coréen qui a pris une bonne place est vraiment très très souvent intéressant, je pense que ça sera de même pour ce roman.
Ah oui, puis j'ai eu la chance moi, de rencontrer l'auteur pendant les Quais du Polar. Et j'étais installée à côté d'elle, elle a eu beaucoup de succès, donc je lui souhaite plein de belles choses pour la suite.
Bien. Avant d'attaquer La mort en miroir, qui est donc le dernier opus en date, comment passe-t-on quand même du commerce en marketing au roman?
Alors c'est une très bonne question. Franchement, on m'aurait dit à 25 ans, jeune diplômée, tu arrêteras le marketing pour écrire, je ne l'aurais jamais cru moi-même. On va dire que c'est les circonstances de la vie. J'étais amenée à pas mal démissionner pour suivre conjoint, car on a beaucoup vécu avec mon mari à l'étranger.
Vous avez vécu en Asie?
Et voilà, exactement en Chine pendant des années, à Dubaï. Et puis à un moment, il y avait une petite lassitude dans ma carrière en marketing. Et puis je commençais à être maman, donc j'avais aussi une envie d'être un peu plus présente à la maison. Et surtout en parallèle, j'étais devenue une grande, grande lectrice de polar. J'ai vraiment découvert ce genre-là un petit peu tardivement, vers la trentaine, et j'ai adoré ça. Et puis un jour, voilà, j'étais sans emploi. La vie a fait que j'avais un petit moment un peu blanc, on va dire, dans ma carrière professionnelle. J'ai commencé à écrire, ne sachant pas du tout où ça allait me mener. Et en fait, j'ai adoré ça et j'ai décidé, en effet, ce jour-là, de tout arrêter pour me consacrer 100% à l'écriture.
Et dans cette écriture, il y a donc, c'est le roman noir vraiment par excellence que vous utilisez. Et dans ce nouveau roman, il y a certains thèmes qui sont au centre de l'histoire. Il y a les sosies, la perte de mémoire, l'amnésie donc, et la gémellité. On peut dire qu'il y a une trinité, en
Exactement.
quelque sorte.
Oui, c'est ça. Bah, c'était en fait, on peut dire que mon dernier roman, donc La mort en miroir, pourrait être qualifié de thriller psychologique, où en effet, je trouve que c'était des thèmes bah, qui sont, c'est vrai, assez récurrents dans le polar noir, mais il y a toujours plein de choses à explorer. Il y avait encore des facettes de l'histoire qu'on pouvait raconter, et je me suis vraiment énormément amusée à l'écrire. C'était un vrai bonheur, en fait, de partir dans ce thème-là qui me changeait un petit peu de mes habitudes. Parce que d'habitude, j'écris plutôt vraiment du roman policier avec une héroïne, le commandante à la crime, ou une avocate pénaliste. Et donc là, c'était un nouveau défi. Et je trouvais que pour mon 10e roman, voilà, j'avais envie d'un nouveau challenge. Donc voilà, donc c'était le dernier défi en date.
Mais le thème des sosies a beaucoup fasciné et des auteurs d'ouvrages et des cinéastes. Je
Oui,
pense
c'est vrai.
en
Puis je pense que
particulier, il y a au moins deux films policiers dans lesquels Louis Jouvet est l'interprète principal, dans lequel il a un sosie.
oui, c'est un terme qui peut paraître récurrent, mais je pense qu'en effet, ce qui est sympa dans la littérature en règle générale, c'est que comme on a chacun notre style, notre imaginaire, on a beau partir peut-être d'une même base, au final, le lecteur va découvrir une nouvelle histoire complètement différente, parce qu'on va chacun partir avec son passé, ses envies, et ce qui fait que l'histoire va complètement changer, même si le thème peut paraître déjà vu, on va dire. Mais voilà, moi je trouve que dans le polar, c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, on a tellement des styles différents, tellement des histoires différentes, une manière de raconter différente, qu'on n'a jamais l'impression de dire la même histoire.
Et le thème de la quête de l'identité d'une personne amnésique aussi, c'est un thème récurrent, mais que l'on peut traiter de toutes sortes de manières. Je me souviens même d'un film, j'ai plus le titre en tête, où c'est un détective qui enquête sur son propre passé. Et là, nous avons affaire à un monsieur qui a eu un accident. Accident ou tentative de suicide, on ne le sait pas vraiment d'ailleurs au début.
Oui, ça part vraiment en fait d'un accident de la route, hein, Bertrand Timonier, qui a un accident de la route et qui, suite à cet accident, a un traumatisme crânien et se réveille en effet complètement amnésique dans sa chambre d'hôpital. Voilà, le roman commence comme ça.
Et il a une épouse, enfin il va découvrir plus exactement qu'il est une épouse, qu'il a un fils. Et vous vous êtes inspiré d'une histoire vraie.
Oui, en fait, c'est parti d'un témoignage que j'avais lu de Jacques-Michel Huret, qui a écrit un livre qui s'appelle J'ai oublié 30 ans de ma vie. Et donc cet homme racontait que suite à une agression, il avait reçu un coup sur la tête, il s'était réveillé un matin sur un banc public de Paris face à l'opéra, ne sachant pas du tout qui il était. Donc il s'est retrouvé à être contrôlé par les policiers qui se demandaient un petit peu ce que cet homme faisait en perdition. Et il était incapable de leur donner un prénom, un nom, un âge. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il a vraiment écrit un livre en fait sur sa quête d'identité où pareil, il a dû se redécouvrir, découvrir que lui-même était père, que lui-même était marié. Et j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit que ça faisait une très très bonne base pour un bon polar.
Et ce monsieur a dans la vie un métier assez particulier. C'est pareil. Alors c'est un métier qu'on ne trouvait pratiquement jamais autrefois dans les romans et dans les films ou téléfilms. Et maintenant, on le met presque à toutes les sauces, c'est celui de médecin légiste.
Oui, bah c'est ce que je me suis dit, c'est qu'en fait le médecin légiste, il a cette particularité de pouvoir aborder en fait le polar justement, un petit peu différemment, parce que c'est vrai que dans les polars, on a beaucoup de flics, on a beaucoup de détectives, on peut avoir des avocats. Et le médecin légiste a une place très importante, en fait, dans l'enquête criminelle. Il aide énormément les enquêteurs, parce qu'il va donner une date, de l'heure de crime. Il peut dire exactement dans quelles circonstances la personne a trouvé la mort. avec quelle arme. Et en fait, tout ça, ça donne énormément de points très importants pour la suite. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, je pense que c'était peut-être un personnage un petit peu secondaire, qui aujourd'hui, en effet, et moi la première, on met aujourd'hui en lumière, parce qu'en effet, ils ont vraiment en fait un rôle clé aujourd'hui dans la résolution de l'enquête.
Mais il y a une romancière, j'ai oublié son nom sur l'instant et je vous prie de m'en excuser, qui a comme héroïne une médecin légiste qui a la particularité de parler aux morts. Elle s'adresse à eux lorsqu'elle fait les autopsies.
Je trouve que c'est un très bon point narratif de départ, en tout cas pour changer un petit peu de ce qu'on lit. Donc, je trouve que l'idée est vraiment top.
Et ce monsieur, donc enfin ce Bertrand, il va retourner sur le lieu de travail, bien qu'il soit totalement amnésique, et il va retrouver tout de suite, en voyant une autopsie, les réflexes de son métier.
Oui, alors après, moi, j'aime bien que mes romans soient vraiment ancrés dans la réalité. Et en fait, ce fameux témoignage de Jacques-Michel Huret raconte que lui-même avait un métier très particulier à l'époque parce qu'il était architecte des monuments historiques, donc ce qui est quand même très, très
Bien
niche
sûr.
hein, comme métier, et qu'il avait donc complètement oublié, et qu'en fait, le jour où il s'est retrouvé face à des plans d'une chapelle à refaire, tout lui est revenu soudainement, le vocabulaire, les contraintes techniques. Et donc, je me suis dit qu'en effet, ce serait intéressant que ça arrive la même chose pour mon personnage principal, tout en me disant que c'était crédible, parce qu'en effet, dans la vraie vie, c'était arrivé. Donc, je me suis dit, voilà, c'est tout à fait plausible, et que ce n'est pas sorti du chapeau, que ce Bertrand, en effet, se retrouve lui-même confronté à son ancien métier et que tous ses gestes, tous ses termes de médecin, lui reviennent, en pleine figure, en fait.
Alors nous n'allons pas dévoiler l'intrigue, bien évidemment, mais on peut quand même dire que la première autopsie, ça va être une énorme surprise pour lui, puisque le cadavre, c'est exactement son sosie.
C'est ça qui était intéressant, moi j'ai trouvé dans l'idée principale du roman, c'est que justement cet homme hein, qui a tout perdu, hein, qui est obligé de se reconstruire de A à Z, quand il essaie de reprendre un peu pied dans sa vie, donc de reprendre son métier de médecin légiste, en fait se retrouve confronté à une problématique extraordinaire, parce qu'en effet quand il ouvre une housse mortuaire, il se retrouve avec le même visage en face de lui. Donc vous imaginez bien pour lui le choc psychologique. Et tout ce que ça implique de se dire, voilà, qui est cet homme, pourquoi on se ressemble, qui est-il? Et j'ai trouvé ça passionnant justement de commencer le roman avec cette problématique qui sort complètement de l'ordinaire.
Il doit avoir l'impression même de faire sa propre autopsie, en quelque sorte.
Ah bah oui, bah d'ailleurs dans le roman, ce qui est vrai hein, dans ces cas-là, c'est qu'on lui interdit de continuer, hein. Donc il va laisser la main à un de ses amis médecin légiste lui-même qui va justement éclaircir un petit peu dans quelles circonstances cet homme a été tué parce qu'il a quand même été retrouvé avec une balle dans la tête. Donc évidemment c'est un meurtre. Donc il n'a plus le droit de toucher au cadavre et voilà. Mais par contre ça va pas l'empêcher lui de son côté de récupérer le dossier, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de partir à la quête de la vérité en fait.
C'est le même cas qu'un chirurgien à qui on interdit d'opérer quelqu'un de sa propre famille.
Exactement, il y a trop de personnel derrière, il y a trop de risques émotionnels. Voilà, mais c'est vrai que tout ça m'a permis vraiment de faire un roman, je pense, qui démarque très très fort dès le départ.
Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, les dernières lignes, enfin les dernières pages, sont aussi une surprise énorme. Bien sûr, on ne va pas les dévoiler ici, il faut absolument
Non,
lire cet
il
ouvrage, mais c'est vraiment une surprise énorme. Alors, il y a Bertrand, mais il n'y a pas que lui. Il y a déjà son épouse, qui est quand même quelqu'un de très très important, qui va agir d'une certaine façon aussi à un moment qui va être essentiel, dirais-je, et il a son fils.
Oui, parce que bah, cet homme en fait a une vie, hein. Donc il découvre papa, il découvre Marie. Et ce qui est très intéressant avec Lucie, c'est qu'en fait c'est une femme qui pourrait être nous toutes, hein, qui est donc mère au foyer au début du roman, qui adore son voilà, qui s'occupe vraiment de son enfant, qui s'est consacrée 100% à la carrière de son mari. Et il faut se mettre à sa place de cette pauvre dame qui un jour on l'appelle en disant que son mari a un accident. Bon, très bien, déjà premier choc. Deuxième choc, on lui apprend que son mari a perdu la mémoire, donc il ne se souvient pas d'elle du tout. Et donc elle est obligée de se retrouver avec tout ça en face d'elle et de surmonter ses épreuves. Donc elle se retrouve seule face à complètement un personnage inconnu qui ne la même pas. Puis il faut essayer de se mettre un petit peu à la place de cette dame qui n'a absolument rien demandé, qui du jour au lendemain se retrouve avec une vie complètement chamboulée.
Et le fils qui est à l'âge de l'adolescence, un âge assez difficile généralement à vivre, se retrouver face à un père qui ne le reconnaît pas, ce n'est pas mieux non plus, je pense.
Ah bah oui, mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au final cet accident ne touche pas que Bertrand, notre personnage principal, mais en fait il a un impact en effet sur tout son entourage. Donc c'est en effet sa femme et son fils dans un premier temps, mais aussi ses amis, sa famille, Et voilà, donc au final, tout le monde est impacté par ça. Et au final, tout le monde, à sa manière, justement, dans le roman, va faire sa propre enquête, sa propre quête de la vérité. Chacun va trouver des éléments différents qui vont être confrontés. Et c'est ça qui est très intéressant dans le thriller psychologique, je trouve, c'est qu'en fait, il arrive des choses extraordinaires à des gens ordinaires. Et en fait, on peut se mettre à la place de nos personnages en disant « Et moi, à la place de cette femme, qu'est-ce que j'aurais fait ?»
Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie par téléphone de Petroni Rostagna pour La mort en miroir, paru chez Belladone, un ouvrage qui fait 381 pages, 20,90 euros, si vous voulez le commander dès aujourd'hui chez votre libraire. Surtout, n'hésitez pas. Alors, j'ai oublié de signaler que vous êtes actuellement assez loin de nous, mais grâce à la magie de la technique, maintenant le son est parfait, même où que l'on soit sur la planète.
Ah, c'est beau la technologie, hein. C'est vrai que c'est pratique quand on est auteur. D'avoir cette liberté de pouvoir travailler n'importe où dans le monde sans être coupé de ses lecteurs, des gens qui nous portent comme vous aujourd'hui pour parler de nos livres, c'est vraiment un grand bonheur.
Est-ce que vous êtes à Dubaï, ce n'est pas un secret, je pense, militaire, mais oui. Est-ce que vous avez déjà songé dirons-nous, exporter entre guillemets vos enquêtes, à faire une enquête à Dubaï ou à un des pays asiatiques où vous avez pu vivre?
Alors c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question, qui est tout à fait pertinente.
Je ne suis pas très original, donc.
Ah non, mais pas du tout, j'allais dire qu'elle est au contraire très pertinente, parce qu'en effet, moi-même, je me suis posé cette question. Mais en fait, non, je vais vous dire non aujourd'hui, alors peut-être que demain, je pourrais changer d'avis. Seulement parce que j'aime que mes romans soient très crédibles et ancrés dans la réalité et dans les procédures judiciaires. Et je trouve ça déjà très, pas compliqué, mais pointilleux d'être très proche de tout le côté juridique français. Qui est mon pays, hein. Et je trouve que si je faisais une enquête dans un autre pays, je pense que trouver l'information, bien comprendre dans une autre langue tous les rouages judiciaires serait peut-être plus compliqué, donc ça me fait peur encore aujourd'hui de pas bien maîtriser ce qui se passerait dans un autre pays. Donc c'est vrai que passant, je reste un petit peu dans ces zones de confort où j'ai l'impression de maîtriser un peu le droit français qui me permet d'écrire des romans où mon lecteur découvre plein de choses sur la garde à vue, quand est-ce qu'intervient un avocat, les droits justement d'une personne soupçonnée. Et je ne sais pas si j'arriverais à être aussi pointilleuse si j'exportais mes romans dans un autre pays.
Alors cela amène naturellement la question que je me préparais déjà à vous poser. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander des conseils à des policiers ou pour cet ouvrage à des médecins légistes?
Oui, alors évidemment, déjà c'est toujours passionnant. En fait, c'est vrai que quand on écrivait, on a cette chance souvent qu'on nous ouvre des portes. Et donc j'ai été amenée en effet à, par exemple, visiter le 36 quai des Orfèvres avant sa fermeture avec la BRI. Il y a des médecins légistes justement qui vous proposent de participer à des autopsies. Alors je vous avoue que jusqu'à maintenant, j'ai refusé ces invitations.
Au quai de la Râpée, c'est pas très très loin, il suffit.
Voilà, c'est pas très loin, mais j'avais un peu peur de pas pouvoir faire face émotionnellement en fait à un corps humain. C'est pas anodin. Donc pour l'instant, je ne suis pas prête encore psychologiquement à franchir les caps. Mais par contre, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a par contre accès à des gens passionnants, qu'ils soient avocats, juges, policiers dans différents domaines en fait, hein, que ce soit la crime, la scientifique. Et c'est tellement intéressant de parler avec des gens du métier.
Il y a quelques semaines, je recevais à ce même micro une de vos consoeurs qui était, elle, du métier, puisqu'il s'agit de Danielle Théry, qui a été commissaire de police pendant de nombreuses années, la première femme commissaire de police d'ailleurs.
Oui, première femme commissaire divisionnaire de France. Oui. Tout à fait, elle peut en être très fière.
Ouais. Et il y a quelques semaines, elle était comme vous par téléphone d'ailleurs. Elle n'était pas présente dans le studio, mais par téléphone comme vous.
Voilà, comme quand on peut habiter à Dubaï ou en France et quand même passer par le téléphone.
Une question un peu bateau, mais bon, qui est inévitable. Est-ce que vous avez déjà songé à une adaptation au cinéma ou à la télévision de certains de vos romans?
Bien sûr. Alors là, j'ai à peu près 3 romans en cours. En tout cas, on essaye. Il y a des producteurs qui ont posé ce qu'on appelle dans le jargon des options. Donc avec cette envie justement de les adapter en série. Et après, c'est un milieu que je découvre. Il faut être très patient. Tout ne se fait pas. Parce que le nerf de la guerre, c'est les chaînes derrière qui prennent ou pas le projet. Donc là, je travaille avec plusieurs producteurs en parallèle et j'espère un jour, en effet, voir une de mes histoires à l'écran.
Bah, on pourrait même faire rêve. Une série, puisque vous avez deux héroïnes récurrentes. Il s'agit de Alexandre Laroche et de Pauline Carrel, qu'on retrouve dans plusieurs romans. On les retrouve même parfois ensemble.
Exactement. Et tout à fait, je pense qu'en effet, il y a de la matière. Après, voilà, c'est un milieu où il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de concurrence. Voilà, mais je ne désespère pas, je fais tout pour. Comme je dis toujours, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Donc là, je fais tout pour que ça marche. Et puis, on croise les doigts. Et je suis sûre qu'un jour, je vous dirai, Renaud, que c'est fait.
Est-ce qu'il y a certains faits divers que vous pouvez lire dans la presse ou entendre à la télévision qui vous inspirent ?
Énormément. De plus en plus, j'ai envie de vous dire. J'ai de plus en plus... Alors, j'écoute, je suis une grande consommatrice de podcasts. Sur des affaires criminelles, je trouve ça extrêmement passionnant et c'est vrai que à plusieurs reprises, ça m'a permis en fait de nourrir mon imaginaire pour me lancer dans le début d'un polar. Par exemple, j'aurais aimé te tuer via un fait divers réel. Après, évidemment, j'ai tout changé, j'ai mis à ma façon par rapport à moi comment je voyais les choses, mais évidemment, c'est une énorme source d'inspiration.
Malheureusement, il y a un sujet, je dis malheureusement, qui devient récurrent parce que de plus en plus souvent dans l'actualité, c'est la pédophilie.
Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas encore complètement abordé parce que je suis moi-même maman de 3 enfants encore assez jeune. Donc je trouve que c'est un sujet délicat et difficile. Donc je ne l'ai pas encore abordé parce que je n'ai pas encore ressenti le besoin, ça viendra peut-être. Mais c'est vrai que ce sont des affaires qui sont toujours très difficiles à entendre en tant que maman, en tant que parent. Puis en tant que femme, qu'en tant qu'être humain, tellement c'est pour moi, en effet, les faits divers les plus monstrueux, en fait, aujourd'hui.
Alors, nous parlions justement des auteurs comme vous qui suivent beaucoup les faits divers. Et il y a quelques semaines également, je recevais ici quelqu'un qui est passionné par l'affaire Dupont de Ligonnès. Il s'agit de Joseph Massescaron.
Oui.
Alors lui, il n'a encore rien écrit dessus, mais à chaque fois que je le rencontre, il me parle de l'affaire Dupont de Ligonnès, qui restera probablement un mystère d'ailleurs.
Oui, alors je pense que c'est en effet une affaire qui passionne beaucoup de gens. Et moi, au fond de moi, j'espère connaître le mot de la fin avant de partir. Quoi, j'aimerais vraiment un jour que cette affaire soit résolue.
Nous allons terminer. Nous arrivons déjà, il ne me reste plus qu'une minute, mais quand même, parler rapidement de cahier d'enquête des 3 affaires criminelles.
Oui, c'est un cahier d'enquête destiné aux adultes où je propose à travers 3 enquêtes où on retrouve mes héroïnes Alexandre et Pauline, dont vous avez parlé précédemment, dans des enquêtes. Et je propose en fait aux lecteurs de participer à l'enquête à travers des énigmes pour aider justement mes héroïnes à résoudre l'enquête. Donc c'est une sorte de cahier de vacances à faire facilement en famille, sur la plage, où vous participez.
Le livre dont vous êtes le héros en quelque sorte.
Exactement, voilà. Donc ça a été un vrai bonheur de le faire. Pas toujours facile parce qu'il faut proposer différents niveaux de difficulté à ses lecteurs, mais ça a été un projet, un vrai challenge qui m'a pris du temps, mais avec qui j'ai vraiment fait quoi. Avec quoi j'ai vraiment fait beaucoup. Ça m'a fait énormément de bien, beaucoup de plaisir, et je trouvais que ça sortait un peu de ma ligne de confort.
Donc, ça paraît ces jours-ci, je crois.
Oui, ça paraît là. Il est bientôt disponible en librairie, puis sur tous les sites qu'on connaît, marchands de livres, voilà, pour ceux à qui ça intéresse.
Nous arrivons à la fin de cette émission, hélas, Petroni Rostagna. J'essaye toujours de trouver une musique ou une chanson en rapport avec l'ouvrage. Bah, nous avons parlé de quête d'identité, et c'est pour ça que j'ai pensé à une très ancienne chanson de Guy Béard, « Qui suis-je ?». Nous allons terminer avec cette chanson, et je vous remercie encore d'être venu nous parler de La mort en miroir.
C'est très gentil à vous de me recevoir aussi souvent, ça me fait très plaisir, un grand merci.
Je suis né dans un arbre et l'arbre on l'a coupé. Dans le soufre et l'asphalte, il me faut respirer. Mes racines vont sous le pavé. Chercher une terre mouillée, qui suis-je, qui puis-je, dans ce monde en litige, qui suis-je, qui puis-je, dans ce monde en émoi. On m'a mis à l'école, et là j'ai tout appris, des poussières qui volent, à l'étoile qui luit, une fois que j'ai tout digéré, On me dit le monde a changé, qui range dans ce monde en mélange, qui change, qui range dans ce monde en émoi. On m'a dit faut te battre, on m'a crié vas-y, on me donne une grenade, on me flanque un fusil. Une fois qu'on s'est battu beaucoup, on me dit embrassez-vous qui crève dans ce monde sans trêve, qui rêve dans ce monde en émoi. J'ai pris la route droite, la route défendue, la route maladroite dans ce monde tordu. En allant tout droit, tout droit, tout droit, je me suis retrouvé derrière moi, qui erre, qui espère dans ce monde mystère, qui erre, qui espère dans ce monde en émoi. On m'a dit la famille, les gros sous, les autos, on m'a dit la faucille, on m'a dit le marteau, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Et puis on s'est contredit, qui pense, qui danse dans cette effervescence, qui pense, qui danse dans ce monde en émoi. Mes amours étaient bonnes avant que les docteurs me disent que deux hormones nous dirigent le cœur. Maintenant quand j'aime, je suis content, ça ne vienne plus de mes sentiments. Qui aime, qui saigne dans ce monde sans thème, qui aime, qui saigne dans ce monde en émoi. Et pourtant je me jette et j'aime et je me bats pour des mots, pour des êtres, pour cet homme qui va tout au fond de moi. Je crois, je crois, je ne sais plus au juste en quoi. Qui suis-je, qui puis-je dans ce monde en litige, qui suis-je, qui